Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps, que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce cinquième dimanche de Pâques, le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » En ce deuxième dimanche de mai, la loi française de 1920 célèbre officiellement Jeanne d'Arc, par qui la ville d'Orléans a été libérée du siège imposé par les Anglais en 1429. Il y a exactement 100 ans, le pape Benoît XV canonisait Sainte Jeanne d'Arc et 2 ans plus tard, le pape Pie XI l'a déclarée patronne secondaire de la France après la Vierge Marie en son Assomption. Eh bien, Jeanne est un bel exemple de ce que le Christ accomplit de plus grand par ses saints et par ses saintes. De plus grand, et il nous faut le comprendre ce matin, avec cette jeune fille au parcours fulgurant qui s'est déroulée sur le terrain politique et militaire où le Christ lui-même n'a jamais voulu s'avancer. Pourtant, c'est bien lui le Christ, le Seigneur Jésus, le roi du ciel, dont le nom béni est gravé avec celui de sa sainte mère sur l'étendard de Jeanne. Comment comprendre, frères et sœurs, que Jeanne ait reçu du Christ par les voies de saint Michel Archange, sainte Catherine et sainte Marguerite la mission temporelle de délivrer la France de l'envahisseur anglais, alors que le Christ lui-même n'a pas voulu délivrer Israël de l'envahisseur romain? Comment comprendre que sainte Jeanne ait reçu du Christ une mission temporelle et militaire, alors que le Christ lui-même s'est abstenu, voire interdit, d'entrer dans une mission temporelle pour libérer son propre peuple? Une réponse à cette question pourrait être la suivante. Jeanne est une petite fille de 13 ans, née d'une famille paysanne de Don Rémy sur les marges de Lorraine. Jeanne ne vient pas d'Île-de-France. Elle ne vient pas du cœur du royaume de France, mais seulement de ses marches. Elle vient d'une petite enclave de suzeraineté française, un peu perdue dans la grande Lorraine et tout entière tournée vers la Lorraine. Jeanne le dit elle-même à sa façon. Quand je vins en France, j'entendais souvent mes voix. Elles m'ont dit qu'il était nécessaire que je vinsse en France. Deux ou trois fois par semaine, elles m'exhortaient à partir pour la France. Je dis alors au capitaine qu'il fallait que je vinsse en France. Vous le voyez, frères et sœurs, Jeanne ne vient pas du cœur battant de la France puisqu'elle y va. Contrairement à Jésus, qui est du cœur d'Israël, puisqu'il est né à Bethléem, tout à côté de Jérusalem. Et là est la différence fondamentale qui, d'une certaine manière, justifie que Jeanne ait reçu du Christ une mission temporelle. Il n'y avait aucun risque, aucune chance que la pucelle d'Orléans revendiquât pour elle une quelconque royauté vu sa naissance, contrairement à Jésus de Nazareth, né à Bethléem, fils de David et de lignée royale. Voilà cette différence fondamentale qui fait que la mission de Jeanne, bien que temporelle, ne pouvait prétendre à aucun pouvoir temporel. Conformément à la mission et à la volonté du Christ en Israël, qui avait refusé la royauté lors même que ses disciples voulaient le couronner pour faire de lui un roi. Cette différence fondamentale, due en quelque sorte à la marginalité géographique de Jeanne, est pour nous importante, car elle nous met sur la voie d'une dimension constitutive de la France. Dimension qui veut que la France ne se constitue pas seulement à partir de son cœur, mais se constitue aussi à partir de ses marges, et plus largement à partir de l'extérieur d'elle-même. France qui se construit aussi à partir de ses éléments frontaliers, comme l'était Jeanne, et plus largement à partir des éléments qui lui sont extérieurs. Une France qui se constitue, qui se confirme et qui se défend à partir de ceux et celles qui, à sa limite ou en dehors d'elle-même, la rappellent à ce qu'elle doit être. Jeanne d'Arc tourne nos regards, non pas d'abord vers nous-mêmes, mais chacun ou chacune d'entre nous, mais vers chacun et chacune d'entre nous qui aurait à se dire « Comment vais-je résister à tel ou tel envahisseur ?» Non, Jeanne, parce qu'elle vient de Lorraine, tourne nos regards vers ceux et celles qui, sur les bords ou en dehors de la France, attendent et demandent que la France soit ce qu'elle doit être. À travers Jeanne d'Arc, Dieu protège et défend ce que le monde attend de la France. À travers Sainte Jeanne d'Arc, le Seigneur protège et défend ce que le monde demande à la France. Et que demande le monde à la France? Qu'attend-il d'elle qui lui soit propre et qu'il veuille la voir confirmer en elle, surtout sous l'égide et le patronage de Sainte Jeanne d'Arc? Eh bien, pour répondre au moins par un exemple, s'il est un ciment de la France qui fait la France, avant même ses frontières, n'est-ce pas d'abord la langue française? Ce ciment de notre pays qu'est notre langue. Cette langue que d'autres dans le monde nous demandent non seulement de promouvoir dans un dialogue ouvert et fécond avec d'autres langues et d'autres cultures, mais aussi de défendre et de protéger contre l'envahisseur et contre l'invasion. Et Sainte Jeanne d'Arc convient tout à fait à cette préservation, à cette défense et à cette promotion de notre langue française dans le monde d'aujourd'hui. L'esprit de Jeanne d'Arc souffle sur ces Canadiens qui viennent nous demander d'être nous-mêmes dans notre langue et de ne pas nous laisser envahir. Il souffle cet esprit de Jeanne d'Arc sur ces nations africaines qui ont en partage notre langue ou d'autres pays du Proche et de l'Extrême-Orient qui nous demandent de promouvoir cet outil magnifique et merveilleux qu'est devenu la langue française. Car lorsqu'on parle d'une langue, on parle aussi d'une culture, d'une pensée, d'une manière de vivre. Et les nations qui ont notre langue en partage demandent et attendent de la France qu'elle maintienne dans sa pensée, dans sa culture, dans sa manière de vivre l'équilibre, qui la caractérise au milieu des autres nations. Et cet équilibre, quel est-il? Cet équilibre, c'est l'équilibre de la pensée, et cet équilibre de la pensée est difficile, mais il est salutaire. Cet équilibre de la pensée, il est toujours à maintenir et à rechercher. Entre ces deux ennemis extrêmes et opposés, que sont d'une part un rationalisme envahissant qui est source d'athéisme, et d'autre part un irrationnel tout aussi envahissant qui est source de fanatisme. Entre ces deux extrêmes opposés, l'équilibre difficile et salutaire de la pensée française et l'équilibre d'une rationalité ouverte qui est source d'une spiritualité universelle qui convient si bien à la foi catholique. Voilà cette attente que notre pays doit assumer. Attente d'un dialogue heureux, réconcilié, entre la foi et la raison, pour la liberté des esprits. Jeanne n'est pas venue du cœur de la France, mais elle y est venue par sa destinée. Jeanne fait partie de ces héroïnes qui nous invitent à regarder ensemble et à recevoir les requêtes de ceux et celles qui, dans le monde, attendent de notre pays qu'il soit à la hauteur de son rang, qu'il puisse élaborer pour le monde, dans plusieurs domaines de la pensée, de la culture et de la spiritualité, ce développement de l'esprit qui allie en même temps la raison, la foi et la liberté. Voilà cette mission si belle que Jeanne veut protéger dans notre pays. Voilà cette mission si grande qui sait combien il est important pour une nation de se retrouver elle-même dans sa culture et dans sa langue avant même la fixation de ses frontières. Et bien pour finir, je voudrais laisser la parole à celui qui est devenu célèbre, vous le savez, pour avoir déclaré que le troisième millénaire serait religieux ou ne serait pas. Je voudrais laisser la parole à André Malraux, qui salua Jeanne le 30 mai 1964 à Rouen, la même où elle fut brûlée, la même où l'on ramassa son cœur. André Malraux qui s'exprima ainsi au sujet de la seconde patronne de notre pays, je le cite, « Dans ce monde où le dauphin doutait d'être dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être l'armée, Jeanne refit l'armée, le roi, la France. » Ce pauvre cœur qui avait battu pour la France comme jamais cœur ne battit, on le retrouva dans les cendres, et l'on décida de le jeter à la Seine, afin que nul n'en fît des reliques. Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles de nos églises, à tous ceux pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Amen.